Que peut la science pour la cité? Que peuvent les femmes pour la science?
France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Quel plaisir de vous retrouver sur France Inter en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est généticienne. Bonjour Edith Heard.
Bonjour.
Edith Heard, vous êtes professeure au Collège de France, titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire qui a été créée pour vous en 2012. Vous dirigez aussi depuis 2010 à l'Institut Curie l'unité génétique et biologie du développement. S'intéresser à votre champ de recherche, Edith Heard, c'est découvrir tout un pan très neuf de la biologie dans lequel on s'interroge au fond pour vulgariser beaucoup sur l'inné et l'acquis, sur les caractères qui sont gravés dans la séquence de notre ADN et ceux qui peuvent être modifiés par les circonstances extérieures. Ça s'appelle l'épigénétique et vous êtes sans conteste l'une des figures de proue de cette science qui s'est beaucoup développée ces derniers temps, notamment grâce à vous et à vos équipes et aux formidables découvertes que vous avez faites dans ce champ de recherche. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure très largement. En attendant, Edith Heard, je vous pose la question rituelle des savantes. Que peuvent les femmes pour la génétique?
Pour moi, je trouve que les femmes peuvent autant que les hommes, peut-être même plus. Je ne me suis jamais posé vraiment la question quand j'ai décidé de faire des études et quand j'ai décidé de devenir généticienne. Alors, il s'avère que le sujet que j'ai choisi, finalement, est très féminin parce que c'est un processus génétique qui est un aspect épigénétique et qui a lieu que chez les femmes, normalement. Et puis, il s'avère aussi que la personne qui a découvert ce processus, Mary Lyon, était une femme, une généticienne. Donc, quelque part, j'étais entourée par ce monde de femmes, si vous voulez, mais c'était pas quelque chose qui m'avait frappée, je dirais, jusqu'à récemment.
C'est vrai que c'est intéressant, j'ai découvert en m'intéressant à votre travail, finalement, il y a beaucoup de femmes qui sont penchées sur ce processus qui est vraiment les premières divisions de cellules embryonnaires, le tout début de la vie. C'est marrant, c'est comme si ça revenait encore aux femmes de s'intéresser à ce moment de naissance de la vie, quoi.
Oui, c'est intéressant. Alors, quand les premiers embryologistes qui commençaient à regarder comment un embryon se développe, c'était il y a plusieurs siècles, hein, et c'était surtout des hommes, mais souvent aidés par les femmes qui étaient pas souvent citée, mais qui était souvent celle qui faisait vraiment le travail. Mais depuis, oui, je dirais un siècle maintenant, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui s'intéressent à la biologie du développement et l'embryogenèse. Et moi, j'ai eu la chance d'être entourée par beaucoup de femmes un peu modèles. Mais elles aussi, je pense qu'elles ne se posaient pas trop la question. Il y avait une passion pour comprendre comment la vie commence.
Mmh. On aura l'occasion tout à l'heure de rendre hommage à Mary Lyon et à vos autres prédécesseuses. Edith Heard, vous êtes aussi directrice générale du Laboratoire européen de biologie moléculaire depuis cette année. Vous êtes une citoyenne résolument européenne. Votre mère est grecque, votre père britannique, votre mari et vos enfants français. Vous l'avez dit en interview, le Brexit vous a littéralement brisé le cœur.
Bien sûr, on continue le travail pour être prêt à sortir de l'Union européenne le 31 octobre. Pas de si, pas de mais. Et en même temps, en traversant le pays, j'ai vu des choses absolument incroyables. Ce matin même, j'étais au laboratoire de fusion nucléaire de Cullum qui offre un incroyable potentiel d'énergie propre et bon marché pour les générations futures. Ils me disent que d'ici quelques années seulement, on sera capable de fournir des réacteurs nucléaires made in UK au monde entier. C'est une perspective absolument incroyable et c'est pour ça que nous vous annonçons sur Facebook Live que nous sommes en train de changer la réglementation sur l'immigration pour faire du Royaume-Uni un pays encore plus ouvert et encore plus accueillant pour les scientifiques du monde entier. Parce que je veux que notre pays soit le meilleur pour la science, pour commencer un business et investir, pour élever ses enfants et pour l'éducation, le meilleur endroit où vivre.
C'était un message du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson qui annonce voilà, des assouplissements migratoires pour les scientifiques. Vous hochez la tête, Edith Heard, ça ne vous rassure pas du tout?
Non, parce que la réalité est que la science est vraiment sans frontières. Et je dois dire que même malgré le Brexit, on va y arriver. Les scientifiques trouvent toujours des solutions pour travailler ensemble. Mais là, le discours qu'on vient d'entendre, je sais déjà que ça peut pas se passer comme ça, parce que les fonds européens auxquels ont contribué les Britanniques et auxquels ils ont bien profité aussi, ont été vraiment une richesse pour la recherche européenne. Nous sommes une force maintenant mondiale que nous n'étions pas forcément il y a quelques décennies. Et c'est grâce à cette Europe. Et là, je vois autour de moi, même il y a quelques jours, parlant avec une jeune étudiante qui est venue de notre pays européen en France pour faire juste quelques mois de Erasmus, ce programme Erasmus. Et on lui posait la question, mais pourquoi en France? Elle a dit, j'ai postulé en France, en Allemagne, en Suisse, et finalement je suis venue ici. Alors moi je pose la question, étant britannique, alors, et en Royaume-Uni, elle m'a dit, non, on nous a conseillé de ne même pas essayer parce que c'est tellement, l'inconnu est tellement risqué, que en fait, aucun de mes camarades ni moi ont décidé de même creuser cette piste. Donc déjà, c'est fait.
Il y a toute une génération. Voilà.
Et ça, c'est très grave. Et je pense que c'est très inconscient du gouvernement britannique d'avoir déjà mené cette longue histoire tortueuse que personne ne comprend jusque-là. Et si le 31 octobre, c'est un Brexit dur, je pense que là, c'est surtout le Royaume-Uni qui va souffrir. Hein. L'Europe, je pense, va remonter. Mais je suis très triste pour mes collègues scientifiques au Royaume-Uni. Et nous essayons déjà d'établir autant de ponts que possible pour éviter trop de dégâts. Et je dois dire que l'EMBL est une organisation qui a un de ses 6 sites est basé au Royaume-Uni. Et heureusement, la convention qui a été signée est en dehors de la traité de l'Union européenne.
Oui, ça dépend pas de l'Union européenne, en fait, voilà. Ce laboratoire européen. C'est voilà. Une très bonne nouvelle, oui.
Donc, c'est un centre de bioinformatique et c'est un petit îlot de l'Europe au Royaume-Uni. Mais ça ne suffit pas parce que les jeunes, comme je vous disais, ils veulent pas y aller, les Européens. Donc, ça va être très triste, je pense.
C'est inquiétant. Vous êtes aussi vice-présidente du comité de parrainage PAUSE pour Programme National d'Aide à l'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil, donc qui aide à accueillir des scientifiques qui viennent de pays en guerre, par exemple, pour qu'ils puissent poursuivre leurs recherches en France. Est-ce que la science est clé pour rapprocher les peuples?
Je pense, enfin, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, au niveau des changements climatiques, au niveau d'épidémies, etc., on réalise qu'en fait, il nous faut la science pour avancer. Et les scientifiques doivent pouvoir travailler librement. Cette liberté de travail et d'expression et de communication est absolument clé. Donc quand on ferme ces portes, c'est pas juste détruire les instituts ou les laboratoires, c'est aussi arrêter cette liberté. C'est vraiment pour moi la fermeture de l'avenir. Et donc c'était une réalisation qui m'est venue peut-être quand j'étais toute petite, parce que étant de cette famille gréco-britannique, quand j'étais petite à Londres, c'était l'époque des colonels en Grèce. Et nous avions beaucoup de gens, des familles de ma famille, mais aussi des amis qui sont venus en exil chez nous, qui dormaient un peu partout dans la maison. Et j'étais élevée dans ces discussions politiques de fermeture, en fait, du monde en Grèce. Et donc j'ai vécu ça et quand je suis devenue scientifique, sans réaliser cette liberté, j'en profite tous les jours. C'est impressionnant la manière que les scientifiques trouvent à toujours avoir une langue commune et de travailler. Je travaille avec le Japon, je travaille avec les États-Unis. Donc en fait, c'est très très important pour que les choses avancent. Et donc en France, nous n'avions pas de programme national pour aider les gens en exil. Et c'était... ça a commencé au moment où on avait surtout des gens de la Syrie, de l'Irak. Maintenant, c'est beaucoup de gens qui viennent de Venezuela, de la Turquie. Et donc, j'étais très heureuse que le Collège de France a décidé de parrainer ça et de me demander d'être la co-présidente. Et j'étais très touchée, très fière. Et je dois dire que pour moi, si je fais pas ça, qu'est-ce que je ferais, en fait? Parce que c'est pas juste profiter moi-même de la science que je peux faire et de le partager, mais c'est aussi permettre d'ouvrir des portes. Et parmi ces gens qui viennent, c'est des gens extrêmement motivés et très talentueux. Donc, pour la France, c'est une énorme richesse de les avoir.
Nous allons au cours de cette heure ensemble, Edith Hurd, prendre le temps de comprendre ce qu'est votre champ de recherche, l'épigénétique, revenir sur vos découvertes et parler de ce fascinant phénomène de silenciation du chromosome X sur lequel vous travaillez depuis plus de 20 ans. Mais avant cela, on part à Londres avec Joy Crooks, London Mine.
Bangla noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey at this lover's walk or Kent Road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5, and your weekends are spent loading up with the boys, with the bottle and Benz. Only way to cope, 'cause this city don't stop for no one. Down Madeira I go. I've been fooled by the charm of the Kennington Road. While the backstreet drama don't get picked up by the sun. That's what makes London mine.
Votre champ d'étude, Edith Hurd, c'est donc l'épigénétique. C'est un domaine de recherche encore récent en biologie. On attribue son apparition à un chercheur britannique, Conrad Waddington, qui en 1942 a cherché à établir un pont entre génotype et phénotype, c'est-à-dire entre le patrimoine génétique et les caractères observables d'un individu. En quoi cette approche était-elle nouvelle à l'époque ?
En fait, c'était l'époque où la génétique venait d'émerger, au début du siècle, avec la redécouverte des études de Mendel, et puis une longue époque d'embryologie où les gens étudiaient, comme on disait tout à l'heure, comment la vie se forme. Et Waddington était une de ces personnes qui faisait de l'embryologie. Il regardait les embryons se former, il faisait des dessins. Mais il était aussi paléontologue, il était aussi philosophe. C'était un grand scientifique, on peut dire, renaissance, un homme de renaissance. Et il faisait aussi de la génétique en utilisant des modèles que maintenant sont assez classiques, mais la mouche à vinaigre, la drosophile. Et il a réalisé que c'était deux mondes séparés, la génétique et l'embryologie, la biologie du développement et la génétique. Alors on savait que la génétique montrait qu'il y avait quelque chose d'héritable, des traits qui pouvaient être passés des parents, on arrivait à voir les règles des chromosomes, etc. Et on commençait à comprendre aussi qu'il s'agissait des chromosomes, même si on ne savait pas que c'était l'ADN, etc. Et de l'autre côté, lui voyait qu'à partir d'un œuf simple, un œuf fécondé, on arrive à avoir une complexité progressive qui se passe. Alors, cette complexification de l'embryon, le nom qui a été donné, c'était l'épigénèse. Ça, c'était un autre Britannique, William Harvey, au XVIIe siècle. Et c'était un concept d'Aristote, il y a bien longtemps. Mais ce concept restait assez controversé, parce que bien sûr, côté Église, l'idée que... il y avait cette idée qu'il y avait une préformation, et en fait, on avait dans chaque embryon, chaque œuf fécondé, il y avait un petit homme, un petit bonhomme, une bonne femme. Donc en fait, les gens qui regardaient les embryons réalisaient, avec la microscopie qui s'avançait, que ce n'était pas le cas. Donc comment expliquer cette complexification à partir des... De neuf, une cellule simple, quelque chose de très complexe, et comment intégrer ça avec cette passage du matériel héréditaire, de la génétique. Et Waddington a voulu réunir ces deux concepts. Et donc c'était ça qui était un peu visionnaire de sa part, et il a inventé le mot qui pouvait unifier l'épigénèse et la génétique. Donc c'était l'épigénétique. Et ça a été, je pense, proposé en 1942. Et en fait, ça a eu très peu de succès. Personne n'utilisait ce mot, ou très peu. Et les embryologistes ont continué, les généticiens ont continué.
Chacun de leur côté.
Voilà. Il y avait quand même plus de dialogue, mais on manquait les bases moléculaires de tout ça. Donc, c'était que après la découverte de l'ADN, après l'explosion de la biologie moléculaire, que là, les gens ont commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Quelles sont les molécules qui font que, avec le même génome, on peut créer tant de tissus différents, tant de types cellulaires différents. Et c'était là où le mot épigénétique a réémergé. Et c'était dans les années 90, aux 80. Et c'était un mot qui a été utilisé un peu différemment, parce que deux scientifiques, cette fois-ci Robin Holliday et Art Riggs, ont proposé que peut-être pour pouvoir distinguer différents types cellulaires, il fallait que le génome soit utilisé différemment. Donc peut-être qu'il y avait des marques épigénétiques au-delà du génome qui marquaient différentes parties du génome pour être exprimées ou pas. Et que ces marques devraient être stables, propagées au cours des divisions cellulaires. Parce que sinon, une cellule pouvait perdre sa mémoire. Une fois qu'elle avait décidé de devenir une cellule de la peau, elle pouvait pas changer d'avis au cours de route et devenir une cellule de la rétine. Donc, il y avait ce concept de mémoire cellulaire aussi qui a été rajouté à la définition de l'épigénétique. Donc, quelque part, ils ont transformé l'utilisation de ce mot. Et depuis, en fait, c'est sans cesse une évolution. C'est très intéressant.
C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les microscopes en fait deviennent plus performants, qu'on observe de plus en plus de choses, ce qui était de l'ordre de l'intuition, en fait, devient de l'observation, et les champs s'ouvrent sans cesse. Et
tout à fait.
Absolument passionnant.
Et un point que j'ai pas soulevé, mais je pense que vous allez le ressoulever, c'est le lien avec l'environnement.
Bien sûr.
Effectivement, quand Waddington a évoqué ce mot la première fois, il parlait de ce lien entre l'environnement, le génotype, phénotype et l'environnement. Pour lui, c'était plutôt l'environnement de l'embryon. C'était pas l'environnement externe. Mais effectivement, aujourd'hui, maintenant, on commence à comprendre que l'environnement peut influencer quand même notre épigénome. Alors, est-ce que cette influence peut être très stable et à long terme ou pas? Ça, c'est une grande question, un grand débat.
En introduction de votre leçon inaugurale au Collège de France, Serge Haroche a dit que votre travail réconciliait Darwin, le père de la théorie de l'évolution, et Lamarck, qui parlait plutôt de transmission des caractères acquis. Pourquoi dit-il cela?
Ah, c'était un peu provocateur, moi j'ai trouvé. J'avoue que j'étais un peu surprise.
Moi j'ai eu vaguement l'impression de comprendre, mais je voulais vous poser la question, parce que c'est des figures que, évidemment, nous on connaît, enfin les profanes connaissent un peu, c'est peut-être les deux biologistes les plus célèbres qui ont un peu marqué l'histoire.
Donc, alors Lamarck, comme vous, je pense que beaucoup de gens savent, beaucoup de ces théories étaient absolument valables, mais elles ont été brusquement mis de côté, et il est mort en pauvreté, en détresse, parce que ces idées ont été tellement mis de côté. Donc c'est très triste comme histoire, mais finalement, oui, pour expliquer comment l'évolution pouvait se faire, Lamarck avait proposé que les signaux ou les besoins d'un organisme pouvaient influencer les traits qui sont transmis à sa progéniture. Donc le cas classique qu'il avait évoqué, c'est le girafe.
La
girafe qui doit avoir le cou très long pour pouvoir manger. Et donc, avec ce besoin d'une génération à l'autre, on allait transmettre cette longueur de cou. Et en fait, finalement, est-ce qu'il y a tellement de différences entre Darwin et Lamarck? Non, si on prend les lois, enfin les théories de Darwin, c'était que il s'agit déjà d'une possibilité dans le patrimoine génétique d'avoir un cou plus long. Et donc, c'est la sélection naturelle qui fait que ceux qui sont nés avec le cou plus long peuvent aller manger.
Ils survivront
voilà.
plus.
Que... Et donc, et les autres pas. Et ils vont pas survivre non pour manger, mais pour se reproduire. C'est ça l'essentiel. Il faut se reproduire. Donc finalement, je trouve que oui, peut-être, je peux réconcilier Lamarck et Darwin. Mais là où je suis très, très intransigeante, c'est que est-ce que les marques épigénétiques qui sont acquises au cours d'une vie peuvent être transmises d'une génération à l'autre? Et là, je pense que on a beaucoup de travail encore pour comprendre si c'est le cas ou pas. Chez certains organismes, on pense qu'il y a, cette transmission, elle pourrait être importante, mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Il y a un effacement à chaque génération des marques épigénétiques.
C'est passionnant. On est vraiment sur la réflexion philosophique entre l'inné et l'acquis. C'est quelque chose que vous, qui est trop simplifié quand on dit les choses comme ça ou...
Non, je pense que c'est bien de penser à l'inné et à l'acquis. J'étais assez puriste quand je commençais au Collège de France, on va dire, parce que moi, je viens du monde de la recherche où je cherche avec une question, je pose une question, je fais les expériences et j'ai les réponses que j'ai. Et si j'arrive pas à répondre à la question, on redéfinit les expériences qu'il faut faire. Avec l'acquis et l'inné, en fait, il faut garder l'esprit ouvert à toutes les variables qui peuvent avoir lieu dans la nature. Donc, l'environnement peut influencer la manière qu'un embryon va se développer. Si une mère est sous-nourrie ou trop nourrie, ça peut avoir une influence sur le fœtus, on le sait. Alors, est-ce que c'est vraiment épigénétique ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est important. Et donc, au cours des années, si vous écoutez mes cours chaque année, j'évolue un peu dans la manière que j'étudie la question. Et je trouve que c'est passionnant parce que c'est la vraie vie. Voilà. Nous sommes exposés à tout un tas de choses et c'est évident que ça doit nous influencer et que ça pourrait éventuellement influencer les choses d'une génération à l'autre. Mais moi, je pense que chez les mammifères, en tout cas, le développement, le fœtus est extrêmement robuste. Donc, il y a très, très peu de choses qui sont vraiment transmises, je dirais, au-delà de l'ADN, qui sont totalement épigénétiques et qui sont transmises à long terme à travers plusieurs générations. Je pense que nous avons vraiment mis en place un système qui nous permet d'effacer ce bagage épigénétique. Parce que sinon, vous imaginez, si on transmettait toutes les mauvaises choses que nous accumulons dans notre vie à nos progéniteurs, je pense qu'on ne s'en rend pas là. Donc pour moi, c'est très important de garder ce côté très puriste scientifique pour dire, bon voilà, si on veut vraiment tester si oui ou non une marque épigénétique peut être transmise d'une génération à l'autre, il faut bien faire la manip, il faut bien faire l'expérience. Ceci dit, je n'exclus absolument pas que à chaque fois qu'on fait une expérience, il peut avoir une influence de l'environnement qui peut donner une variation dans le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et je pense que les scientifiques commencent à réaliser, il faut vraiment prendre ça en compte. Donc,
quand vous parlez de cette transmission de génération à l'autre, c'est vraiment intéressant quand on se penche par exemple sur le cancer. L'épigénétique sert beaucoup la recherche concernant le cancer, où il y a cette espèce d'idée reçue que c'est génétique, on dit souvent.
Oui.
Voilà, ta mère, ta grand-mère a eu un cancer du sein, t'as des chances de l'avoir. Mais on se rend compte que finalement, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs et que c'est peut-être plus compliqué que ça, c'est ça?
Alors, le cancer, c'est un cas très, très intéressant, je trouve, parce que effectivement, il y a des prédispositions génétiques. Et là, c'est des gènes, c'est la séquence d'ADN où il y a une mutation, ou même pas une mutation, une variation de nucléotide qui peut influencer la manière que les gènes soient exprimés ou la protéine que le gène va exprimer. Et ça peut effectivement prédisposer à certains cancers. Pour moi, la grande découverte récente pour le monde de l'épigénétique, c'est que très souvent, les gènes qui sont affectés, c'est la machinerie épigénétique, c'est-à-dire c'est les gènes qui produisent les protéines qui vont mettre en place les processus épigénétiques. Donc, quelqu'un qui est prédisposé à une maladie, la conséquence va être que épigénétiquement, il y a des changements. Donc, l'épigénétique est très importante pour le cancer, mais la base, c'est quand même génétique. Mais c'est la génétique qui affecte les processus épigénétiques. Et donc, ce côté-là est un espoir parce que les processus épigénétiques, on peut les réverser, on peut jouer avec, parce qu'il y a des molécules qui peuvent interférer avec certaines modifications épigénétiques ou leur propagation. Alors que faire la thérapie génique, c'est-à-dire modifier le gène lui-même, est beaucoup plus difficile. Donc pour moi, le cancer, c'est vraiment un cas très intéressant qui montre le lien direct entre génétique, processus épigénétique et puis possibilité éventuellement de traitement.
Et à quel point les croyances et les connaissances qu'on a à ce sujet peuvent évoluer d'un jour à l'autre.
Et alors là, c'était vraiment le séquençage des génomes qui a permis ça. Il y a 20 ans, on ne le savait pas du tout, et maintenant, depuis 5-10 ans, c'est vraiment l'explosion de connaissances dans ce domaine.
Vous avez parlé un peu en introduction de Mary Lyon, qui a découvert un processus qui porte son nom, la lyonisation. Il y a une autre figure importante, une autre femme, Barbara McClintock, qui a reçu le prix Nobel en 83, bien longtemps après avoir entièrement cartographié le code génétique du maïs. Alors, en lisant sa bio, j'étais fascinée pendant pratiquement 20 ans. Elle n'a rien publié de ses travaux parce que ses contemporains étaient extrêmement choquée de ce qu'elle trouvait, ce qu'elle observait. Pourquoi ça fâche autant la recherche sur la génétique ?
Alors, dans son cas, c'était pas la génétique qui fâchait, c'était ce qu'elle proposait. Ce qu'elle a découvert, c'est qu'une grande partie des génomes, dans le cas qu'elle étudiait, c'était le maïs, mais c'est le cas pour quasiment tout autre organisme, il y a une grande partie du génome qui est répétée. C'est-à-dire, c'est des éléments qui sont identiques et qu'on trouve un peu partout dans le génome. Et sa découverte, c'était que ces éléments sont transposables, ils sont mobiles, c'est des gènes qui peuvent sauter, c'est les gènes sauteurs, ils peuvent aller d'un endroit à l'autre dans le génome. Et donc elle a proposé même que ces gènes qui sautent, ces transposants, pouvaient contrôler les gènes endogènes, enfin les gènes qui régulent les caractères, la couleur par exemple du maïs, le texture, les tissus. Et donc en fait, elle a proposé que ces éléments transposables étaient même des contrôleurs de l'expression génique. Et là, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Et même si il croyait les données, parce qu'elle avait les preuves cytogénétiques, c'était ça sa puissance. Elle faisait de la génétique et de la cytogénétique. Donc, elle pouvait montrer les chromosomes et les parties qui sautaient, et alors qui affectaient la couleur ou la texture de son maïs. Donc, il croyait, mais c'était trop. En plus, c'était très complexe. La manière qu'elle décrivait ça, elle voulait observer. Elle voulait pas faire des modèles, comment ça marche, etc., trop tôt. Donc, elle observait, elle écrivait, elle faisait pas de modèles, elle simplifiait pas la tâche pour les autres. Et donc, il y avait beaucoup de scientifiques qui étaient dépassés par ça. Et au lieu d'essayer de publier ses travaux et être critiquée et avoir à refaire et réécrire, elle s'est dit à un moment, bon, elle a continué à publier, mais que dans les annales de son institut. Alors, c'était pas évalué par des reviewers. C'est ça le processus normal. On envoie, il y a des référés anonymes qui étudient le travail et ensuite c'est publié, mais après plusieurs tours de correction. Elle s'est dit, j'en ai marre de
ça. Elle a avancé dans son coin.
Voilà. Et donc, du coup, elle était assez solitaire, mais très, très respectée néanmoins. Donc, même si elle publiait pas dans les publications ou les journaux connus, elle était quand même très respectée. Et bon, ça a pris quand même, 20 ans ou plus pour le prix Nobel, mais elle a eu. Elle a continué ensuite à faire des très beaux travaux. Elle était extrêmement respectée. Il y a d'autres cas. Les prix Nobel peuvent arriver 50 ou 60 ans plus tard. Hein. Par exemple, le sarcome de Raf, c'était un des premiers cas de tumeur qui est issu d'une virus. En fait, le monsieur qui a découvert ça, monsieur Raf, il a eu son prix Nobel 60 ans plus tard. Et donc, il avait laissé tomber entre-temps. Donc, en fait, c'est souvent le cas. Ceux qui font les grandes découvertes, qui sont totalement... dirigé par la curiosité. Très souvent, c'est trop tôt. Et donc, on dit qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que les gens disent non, ça peut pas exister, c'est pas possible. Après, une deuxième étape, ils disent ça peut exister, mais c'était pas lui ou c'était pas elle qui l'a découvert. Et puis, une troisième phase où ils disent ben oui, finalement, il avait raison ou elle avait raison. Et donc là, il y a la récompense.
We'll be right back. C'était Danger Mouse et Karen O, Women.
France Inter. Les savantes. Lorraine Bastide.
Edith Heard, qu'est-ce qui, dans votre éducation, vous prédestinait à devenir la brillante scientifique que vous êtes devenue?
Alors, je peux donner plusieurs réponses à ça. Je pense que peut-être la première, c'est que j'étais élevée pour faire ce que je voulais, en fait, si j'étais bien éduquée. Donc, en fait, mon père m'a mis dans une école privée de filles. Et peut-être ça, c'est le facteur le plus important. Maintenant, je réalise avec le recul. J'étais dans une école de filles où la science était enseignée très naturellement. Et j'étais forte en maths. J'étais pas particulièrement intéressée par les sciences. J'étais intéressée aussi par l'art, l'histoire. Mais j'étais très forte en maths. Et donc, petit à petit, je choisis un peu ce chemin. Et il y avait une grande satisfaction de pouvoir me focaliser sur ça. J'avais jamais la distraction de me dire, alors, est-ce que si je suis une fille, est-ce que je dois faire
science? Est-ce que c'est pour moi ou pas? Ouais. C'est intéressant ce que la non-mixité peut apporter dans l'éducation.
Et je pense que c'était très important et peut-être ça continue à être important. Ouais. Mmh.
Alors, il y a souvent des trajectoires chez les grandes scientifiques où il y a une espèce d'évidence dès l'enfance, une trajectoire toute tracée. Mais vous, c'est arrivé assez tard dans votre vie,
je pense.
La biologie.
Oui.
Vous l'avez découverte quand vous étiez étudiante à Cambridge.
C'est ça, voilà. En fait, mon père est ingénieur et quand j'ai décidé de faire sciences à l'école, j'évitais la biologie. Pour lui, c'était pas vraiment une science. C'était plus un art. Et donc, j'arrive à Cambridge et là, je devais faire biologie. J'ai fait physique, maths, chimie, mais j'ai fait aussi biologie. Et c'était pour moi le moment de découverte et de grand plaisir parce que j'ai vu tout un monde s'ouvrir à moi avec les scientifiques tous... plus excitée que les autres sur ce qu'ils faisaient, et c'était les gens qui m'enseignaient. Et c'était pour moi un soulagement quelque part que j'avais enfin trouvé ce qui me plaisait, en fait.
Et tout un champ à explorer, parce que en fait, vous êtes partie de zéro quasiment à
18
ans.
C'est ça. C'est, et je pense que c'est un avantage, ça, parce que je reste toujours très, très humble par rapport à mon manque de connaissances quand j'étais à l'école.
Ouais. On va écouter une voix qui nous vient tout droit de l'année 2000.
L'annonce d'aujourd'hui représente plus qu'un triomphe éphémère de la science et de la raison. Lorsque Galilée a découvert qu'il pouvait utiliser les outils mathématiques et mécaniques pour comprendre le mouvement des corps célestes, il a eu le sentiment qu'il venait de comprendre le langage avec lequel Dieu avait créé l'univers. Aujourd'hui, nous apprenons un langage avec lequel Dieu a créé la vie. Nous entrons davantage dans la complexité, la beauté, la merveille de ce cadeau que Dieu nous a donné. Avec ce nouveau savoir, l'humanité est sur le point d'acquérir un nouveau pouvoir, le pouvoir de guérir. La science du génome aura un réel impact sur toutes nos vies et encore plus sur celles de nos enfants. Cela va révolutionner le diagnostic, la prévention, le traitement de presque toutes les maladies. Dans les prochaines années, les médecins seront de plus en plus en mesure de guérir des maladies comme Alzheimer, Parkinson, le diabète et le cancer.
C'était la voix très solennelle, très émue hein, de Bill Clinton. Moi, je me souvenais de ce moment en 2000. Donc, c'est l'annonce du séquençage complet du génome humain. À l'époque, vous êtes une jeune chercheuse déjà reconnue. Hein, vous avez fait une découverte importante en 97. Qu'est-ce que ça vous a fait, cette annonce, à vous?
Alors, c'était intéressant parce que je voyais, enfin, depuis ma thèse, je voyais que le séquençage était une technique qui nous permettait de regarder des petits bouts de séquences des génomes. Donc, on voyait déjà la puissance que ça avait. Ça nous a transformé la manière de comprendre ce que c'était l'ADN, l'hérédité, etc. Mais là, comprendre tout le génome, c'est vrai, c'était un moment magique. Un moment, je dirais, d'espoir, de très grand espoir, mais en même temps un peu de tension parce que tout autour de ça, il y avait beaucoup de critiques très très vite, mais finalement on va pas tout comprendre. C'est le livre de la vie, mais en fait on n'arrive pas à le lire, on comprend pas.
Ouais.
Et là c'était très intéressant parce que il fallait croire vraiment que ça servait à quelque chose, parce que ça coûtait très cher à l'époque de séquencer des génomes. Maintenant c'est rien, mais à l'époque c'était, il fallait s'accrocher. Donc on a ensuite passé, je dirais, 5 ou 10 ans où il fallait défendre ce qui a été fait, et les gens étaient très sceptiques, et il y avait aussi la peur, la crainte, je pense, que le public allait être déçu, que finalement on n'avait pas livré ce qu'on avait promis avec ce séquençage du génome. Et heureusement, en fait, les choses ont beaucoup accéléré et les technologies, la vitesse à laquelle on peut analyser les génomes ont énormément évolué. Donc la bioinformatique et puis les outils pour manipuler le génome pour pouvoir changer la place d'un gène à l'autre. Et ça, c'est très important parce que maintenant, on peut lire le génome et dire, ah bah tel gène, finalement, il est lié avec tel trait ou telle maladie ou telle caractéristique. Et si on fait une mutation, la prédiction est quoi? Et oui, voilà. Donc, on peut vraiment faire toute la suite grâce à cette base des génomes.
Mais il y avait aussi, j'ai l'impression, on l'entend dans ce discours, l'espèce d'impression, comme vous dites, que c'est le livre de la vie, que tout est gravé là, que finalement, une fois qu'on a compris le génome, on a tout compris, alors que vous vous attelez justement à montrer que c'est plus compliqué que ça.
Pour moi, c'était très important parce que le monde de l'épigénétique a vraiment explosé à ce moment-là, parce qu'on a réalisé que cette séquençage du génome représentait pour les gens aussi la possibilité qu'on pouvait tout comprendre, peut-être trop, et que si on pouvait tout lire, on pouvait pas échapper à notre destin. Donc ça, on l'a beaucoup entendu. Comment échapper à notre destin maintenant que on peut tout savoir, on peut prédire tout? Et en fait, de côté, on a réalisé que, non, pas du tout. C'est pas parce qu'on a le séquence du génome qu'on peut comprendre comment ça marche. Mais, de l'autre côté, il y avait l'épigénétique. C'était les modifications du génome qui font que, avec le même génome, on peut faire deux choses différentes. On peut exprimer un gène ou pas. On peut avoir des variations. Et donc là, l'épigénétique est devenue très à la mode. Parce que ça allait nous sauver de notre destin génétique. Alors, ça, c'était faux. Et moi, je me bats pour pouvoir expliquer que l'épigénétique et là, une couche supplémentaire à la génétique. Mais quand même, c'était très intéressant de voir comment l'épigénétique est devenue très à la mode à ce moment-là.
Et comment la philosophie vient imbiber cette réflexion scientifique. Vous avez passé une année sabbatique aux États-Unis avec votre mari, votre famille, qui vous a, je crois, apporté une série d'illuminations qui vont changer le cours de votre carrière. Et puis, vous êtes arrivée en France, où pendant plusieurs années, vous avez énormément travaillé sur ce fameux chromosome X. Et en 2012, vous avez fait une découverte avec votre équipe très importante. Vous dites souvent qu'il n'y a que la France qui pouvait vous permettre de faire cette découverte en vous laissant le temps de le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, c'était la possibilité d'explorer un sujet qui était complexe, comme l'inactivation du X. Les technologies n'étaient pas toujours faciles, donc il fallait développer certaines technologies pour pouvoir comprendre comment un chromosome entier s'éteint. Et pour comprendre quelle partie du chromosome X jouait ce rôle, j'avais utilisé ce qu'on appelle la transgenèse. Je prenais un morceau du chromosome X, une partie de ces gènes, et je les mettais ailleurs pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche ou pas. Et c'était très long. Et c'était avant que je parte aux États-Unis, en fait, que j'avais passé presque 10 ans à l'Institut Pasteur, dans le laboratoire de Philippe Avenin, où j'avais fait ces expériences. Et à chaque fois, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que je prenais une partie du génome en simple copie, je le mettais ailleurs et ça déclenchait pas, alors que ça contenait tous les gènes qui devaient jouer le rôle. Et si j'étais ailleurs, je pense que j'aurais pas pu poursuivre ça jusqu'au bout. Et
la France, c'était pas rentable parce que ça allait pas assez vite.
Je publie pas tout de suite. Ouais. Je faisais une manip et c'était 10 ans plus tard qu'on avait vraiment compris. Et c'est pour ça que le passage aux États-Unis était très important parce que ça m'a permis d'acquérir de nouvelles technologies. Et en revenant en France, on a pu comprendre pourquoi ces transgènes ne marchaient pas. Et en fait, c'était absolument clé. Parce que la raison pour laquelle ils marchaient pas, c'est parce qu'il manquait des séquences qui permettaient que cette région se plie correctement en 3 dimensions dans le génome. Donc ça, c'était une grande découverte en 2012 qui a été faite en France à l'Institut Curie où j'étais, à part mon étudiant, Elfège Nora. Mais c'était quand même en collaboration avec une équipe aux États-Unis, Yob Dekker. Et pour moi, c'est ça aussi la magie de la science. C'était cette capacité de collaborer un peu partout avec les gens qui ont les bons outils. Donc je choisis la personne qui avait l'outil pour me permettre de regarder est-ce que c'était oui ou non ce côté répliement du génome qui manquait à ces transgènes. Et le résultat était oui. Et donc c'est un papier maintenant qui est cité plus que 1000 fois et qui était très important.
Je crois que c'était mieux hier. Alors j'ai reculé. J'ai cru pouvoir te plaire. Est-ce que je me suis plantée? J'ai repensé à cette nuit. Dans tes bras un instant. C'était si long et infini. Et éphémère pourtant. Dans mes souvenirs, c'était si bien. C'est sûr, j'y repenserai demain. Mais dans mes souvenirs, c'était si bien. C'est sûr, j'y repenserai demain. Ton silence me fait douter. Tu laisses un vide en moi. Je crois que j'ai aimé la violence de tes choix. Tes mains qui englobent mon cou et les trains du nid à genoux. Je sais que je ne devrais pas. Je sais que je ne devrais pas. Mais j'en veux encore. Encore. Et dans mes souvenirs, c'était si bien. C'est sûr, j'y repenserai demain. Mais dans mes souvenirs, c'était si bien. C'est sûr, j'y repenserai. J'ai besoin de sentir quelque chose en moi. Je te parle de souvenirs et tu sais qu'ils en disent long. Fais-moi revenir, je ne dirai pas non. Oh, j'en veux encore.
C'était Vendredi sur mer, encore.
Les Savantes, sur France Inter.
Edith Heard, je voudrais qu'on prenne le temps dans la dernière partie de l'émission de revenir sur ce qui vous a occupé pendant plus de 20 ans, le processus d'inactivation du chromosome X chez les mammifères femelles. C'est tout simplement fascinant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on parle d'inactivation ou de silenciation et surtout à quoi ça sert ?
En fait, c'est assez simple. C'est la différence entre les hommes et les femmes, ou les mâles et les femelles, c'est les chromosomes sexuels. Donc, les hommes ou les mammifères mâles ont un chromosome X et un chromosome Y. Et c'est le chromosome Y qui porte les gènes clés pour la plupart des traits masculins, enfin, pour faire les testicules, etc. Alors que chez les femelles, nous avons deux chromosomes X. Le Y, il est tout petit, il porte que ses gènes importants pour les traits masculins, mais le X est un chromosome assez énorme, avec plus que 1000 gènes. Et ce déséquilibre d'avoir juste un X chez les mâles et deux X chez les femelles est insupportable. Alors pourquoi c'est insupportable? C'est en fait parce que au début, ces deux chromosomes, X et Y, étaient un paire d'autosomes, c'était deux chromosomes identiques qui ont petit à petit évolué pour être différents, pour pouvoir permettre les différents sexes. Et donc, au cours de cette évolution, d'avoir deux copies d'un chromosome grand comme le X et une copie seule chez le mâle, est quelque chose qui n'est pas viable parce que nous sommes quand même assez similaires. Les hommes et les femmes, malgré tout ce qu'on dit, on est quand même très très similaires physiologiquement, etc. Donc en fait, très tôt au cours du développement, en tout cas chez les mammifères, le système qui a été mis en place pour compenser cette différence est de inactiver un des deux chromosomes X chez la femelle. Donc on le met en veille, on l'éteint, les gènes ne sont plus exprimés. Ça se passe assez tôt au cours du développement et une fois que c'est mis en place, cet état silencieux est propagé au cours des divisions cellulaires. Donc nous avons les femmes, les cellules des femmes ont toutes deux chromosomes X, mais un des X est bien exprimé, utilisé, produit des protéines, des ARN, etc. Alors que l'autre, il est silencieux, mais il est là Et c'est que dans la ligne germinale où on le réveille et on le remet en action. Et lui, il peut être hérité. Les deux X, le X qui était actif et celui qui était inactif, peuvent être hérités et donnés aux garçons ou aux filles et être potentiellement actifs ou inactifs à leur tour. Donc c'est un cycle d'inactivation et de réactivation qui a lieu dans chaque cycle de vie chez les femelles.
C'est comme si ça clignotait. Vous dites, contrairement aux hommes, la femme est une mosaïque. La féministe oui. que je suis adore cette phrase, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que la généticienne veut dire par là.
Alors là aussi, c'est très simple. Cette inactivation du chromosome X, en général, est aléatoire. C'est soit le X de notre père, soit le X de notre mère qui est inactivé. Ce choix est fait très tôt au cours du développement, mais à un stade où il y a quand même plusieurs cellules. Donc chaque cellule va décider, ah, moi j'inactive le chromosome X paternel, et une autre cellule va décider d'inactiver le chromosome X maternel. Et ensuite, cette décision, elle est propagée. Donc nous sommes de mosaïques de cellules qui expriment soit que le X paternel, soit que le X maternel. Et bien sûr, ces deux chromosomes sont plus ou moins identiques, mais il y a des subtiles différences. Par exemple, les gènes qui codent pour certains traits sont sous le X. Et donc, si c'est le X paternel qui est exprimé, on aura un type de trait. Et puis, si c'est le X maternel, on aura un autre. Et donc, ça, on le voit très bien pour certaines types cellulaires. Dans la rétine, par exemple, on voit qu'on a des patchs, des mosaïques, des cellules qui expriment soit le X paternel, soit l'X paternel. Et chez les chats, les femelles chats, Isabelle ou les chats d'écaille de tortue, leur pelage bigarré comme ça, c'est le mosaïcisme dû à l'inactivation du X.
Et on ne le trouve que chez les femelles. Il n'y a que les femelles chats voilà. qui peuvent avoir ce pelage
Alors,
bigarré.
Rarement, on a des mâles qui sont comme ça. Et quand on regarde leur chromosome sexuel, en fait, c'est pas des XY, c'est des XXY. Et parce qu'ils ont deux X, il faut quand même inactiver un des X. Donc, même les mâles, parce qu'ils sont Y, peuvent avoir ça. Mais c'est des mutants. Enfin, c'est très rare.
C'est quand même passionnant. Et ce que je trouve d'autant plus émouvant, c'est que vous avez compris, en fait, le fonctionnement de ces silenciations successives en 97. Et c'était, j'imagine, un grand moment pour vous. D'autant plus que vous veniez un petit peu corroborer l'intuition de Mary Lyon, l'observer, en fait, oui. ce qu'elle avait l'impression de comprendre.
Alors, ce n'était pas que moi. Il y avait beaucoup d'équipes qui ont découvert les clés de ce processus. Nous avons poursuivi une voie particulière qui a montré que l'inactivation du X, c'est un processus dynamique au cours du développement et à quel stade ça se passe. Et en fait, finalement, c'est pas aussi stable qu'on imaginait. Mais en tout cas, nos études ont bien montré qu'effectivement, il y a ce côté variable qui donne lieu à ce mosaïcisme. Et ce mosaïcisme peut varier d'un individu à l'autre. Donc deux jumelles identiques, quand elles sont femelles, ne sont jamais complètement identiques à cause de ce mosaïcisme, cette expression différentielle des gènes paternels, maternels sous le chromosome X.
Ça correspond un peu à un cliché que les femmes sont plus compliquées que les hommes. Hein, cette
ça, c'est
histoire.
Clair. Ça, c'est clair. Plus diverses, on va dire.
Dans le contexte du laboratoire européen de biologie moléculaire, vous aimeriez maintenant explorer le champ de l'influence de l'environnement sur l'organisme, et notamment à quel point le changement climatique peut avoir un impact sur les individus et leur capacité à s'adapter. C'est assez politique d'embrasser ce champ de recherche.
En fait, si je peux juste expliquer pourquoi je suis arrivée là. Avec mes études sur l'inactivation du X et l'épigénétique, j'étais très souvent confrontée à l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Donc j'avais commencé à étudier à quel point finalement deux individus avec un patrimoine génétique identique peuvent montrer des différences. Et c'est très fréquent parce que il y a déjà un côté stochastique au cours du développement. Ça se passe pas toujours exactement de la même façon. Il y a une notion de temps et d'espace, et donc parfois les gènes sont exprimés plus ou moins tôt et tard. Et il y a aussi le côté environnemental. Et c'était en étudiant, en faisant mes cours au Collège de France, que j'étais un peu confrontée à ça, où j'ai réalisé que nous sommes aujourd'hui à un moment dans la biologie moléculaire en particulier, où nous essayons toujours d'exclure l'environnement parce que c'est beaucoup plus simple de se baser sur l'étude des organismes ou même des cellules dans une boîte de pétri qui sont dans un milieu identique. On veut faire des variations génétiques pour voir à quel point ça influence ou pas différentes caractéristiques. On veut aussi modifier le génome, mais c'est très rare, en fait, qu'on essaie de comprendre la contribution de la variation de l'environnement. Et on commence à voir les outils pour le faire et les outils pour comprendre quel est l'impact. On peut séquencer les génomes, on peut regarder les cellules à haute résolution en microscopie, on peut regarder le comportement des organismes, des animaux ou même des tumeurs in vivo. Et donc, je me suis dit, c'est le moment où la biologie moléculaire doit ouvrir ses portes à cet environnement. Et pourquoi ? C'est parce que le vivant est dans la nature. Les animaux qu'on étudie dans le laboratoire, en fait, ils sont quand même venus de la nature. L'homme vit dans la nature. Et nous avons le devoir de comprendre le vivant dans son contexte. Et il s'avère que pour une fois, en biologie, nous avons les outils et l'intérêt de faire quelque chose qui aussi d'un intérêt sociétal. Le changement climatique, bien sûr, tout le monde entend parler, le collapse de la biodiversité aussi. Mais pour moi, ce qui était important, c'est se dire, nous pouvons vraiment commencer à comprendre les changements moléculaires qui ont lieu quand un organisme est exposé à des températures très, très extrêmes. Quel est l'impact? Est-ce que c'est un changement qui est très nocif ou pas? Et en fait, pour nous, c'est très important comme scientifique de dire, mais maintenant, on peut faire ces expériences dans le champ, mais aussi on peut le faire revenir dans un laboratoire. On peut dire, voilà, et si nous, on varie la température ou le milieu, la sécheresse, le microbiome, quel est l'impact et comment on peut le mesurer? Donc pour moi, c'est un peu ce constat qui a fait que, ben voilà, on va essayer d'explorer cette voie. Et je dois dire, c'est parce qu'il y avait déjà ce type d'expérience qui était en cours d'être faite à l'EMBL. Donc c'est facile quelque part parce qu'il y a déjà les chercheurs intéressés. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est important pour l'Europe, en fait, d'avoir ce type de recherche.
Bien sûr. Vous avez consacré d'ailleurs toute une série de cours au Collège de France à cette notion de biodiversité et d'épigénétique. Et vous commencez en disant, c'est un devoir de citoyenne pour moi de vous transmettre ces idées-là.
Exactement. Enfin, déjà, tous mes cours au Collège de France et tous les professeurs, c'est notre devoir de transmettre nos connaissances et les connaissances. Et là, c'est vrai que on entend les nouvelles effrayantes de l'impact, par exemple, de la pollution de plastique, d'utilisation des pesticides. Et je pense qu'effectivement, en tant que chercheur, c'est notre devoir de parler. Nous nous basons sur les connaissances. Nous ne sommes pas là pour le fake news. Nous regardons ce qui existe comme connaissance, où ça peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est sur cette base-là qu'il faut attaquer le problème, pour être préventif, pour aussi peut-être être moins alarmiste, pour dire, ben voilà, il y a certains changements qui ne sont pas si catastrophiques que ça. Et donc, je pense que c'est mon devoir, c'est le devoir de tous les scientifiques.
Et de sortir de l'angoisse qui,
exactement,
qui nous pèse.
Exactement, d'aller de manière positive vers l'avenir plutôt qu'avec cette angoisse et cette frayeur. Mais on peut réverser les choses, mais il faut savoir ce qu'il faut réverser.
En tout cas, vous avez une faculté assez inouïe à transmettre les choses de façon très compréhensible, très claire. Je recommande à tout le monde d'aller voir les vidéos ou les podcasts de vos cours au Collège de France. Merci beaucoup, éditeur.
Merci à vous.
C'était un honneur de
vous
recevoir aujourd'hui.
Merci.
Voilà, c'était le dernier rendez-vous des savantes de l'été. Vous pouvez réécouter l'émission ainsi que les 7 autres épisodes de la saison sur le site franceinter.fr ou votre application podcast préférée. Vous y retrouverez aussi les précédentes saisons des savantes. L'émission sera aussi rediffusée dimanche soir à 22h. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen avec Frédéric Milano et préparée par Perrine Malinge avec Emma Ferret. Et aujourd'hui à la technique, Nicolas Delmas. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous des savantes. C'est une immense fierté pour moi de partager ces moments estivaux avec vous sur France Inter. Pour me retrouver à la rentrée, ça se passe sur le podcast La Poudre et sur le site de Nouvelles Écoutes. Bonne fin d'été, bonne rentrée et surtout continuez de lire et d'écouter des femmes.